Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria, en direct de la Porte de Versailles pour le Forum de l'aménagement durable avec l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Et c'est le moment de parler intelligence artificielle. Est-elle possible? Peut-elle aider les aménageurs? Ce sujet, on va en discuter avec Arthur Lapeyrère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes alors architecte et data scientist et vous êtes également adjoint à la direction de l'immobilier de l'État, la DIE. Alors, on va commencer avec une question toute simple. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle et peut-elle être mise à disposition des aménageurs?
Alors, l'IA, on pourra la définir comme des techniques pour résoudre des problèmes complexes, logiques ou algorithmiques. C'est très utilisé pour effectuer à la place de l'humain des travaux complexes très rapidement, voire des éléments, des études que l'humain, que les métiers ne pourraient pas faire, car les méthodologies statistiques algorithmiques permettent de gérer à la fois énormément de dimensions que ce que l'humain ne pourrait pas faire.
Alors, on pense tout de suite à ChatGPT, hein. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Faut savoir que l'IA, donc, ça a besoin d'un entraînement, a besoin de data. On l'a vu avec ChatGPT, c'est vrai qu'il faut le former, il faut l'entraîner. Et c'est ce qui se passe pour n'importe quelle intelligence artificielle.
Absolument, oui. C'est une techno qui est assez vieille, hein, déjà. Elle est apparue dans les années 50, 60. Elle est présente partout aujourd'hui, les moteurs de recherche, les systèmes de recommandation d'achat, de films, de musique, les chatbots, la génération d'images également. Mmh. On l'a à peu près partout.
Oui, c'est vrai que la génération d'images, c'est assez bluffant.
Clairement. Ouais. Et concernant de l'aménagement, les opportunités sont clairement évidentes.
Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait déjà former les acteurs, c'est ça, les aménageurs?
Je crois que le message qu'on peut faire passer, qui est assez important, c'est qu'il ne faut pas être dans l'attente d'une solution idéale. Il faut vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, se former, intégrer ses capacités de compréhension de données à tous les échelons, pour vraiment comprendre les tenants, les aboutissants de ces technologies. Et les enjeux de vraiment maîtriser sa donnée, la donnée qui est produite de son activité propre.
Donc ce n'est pas une solution miracle?
Non, pas du tout.
Alors, vous me parliez de quatre prérequis, justement. Quels sont-ils?
Alors du coup, le premier prérequis, ce serait de vraiment définir les cas d'usage, les objectifs et ce qu'on veut en faire. Se poser une question très précise avec des éléments mesurables, avec des unités, et surtout ne pas rester flou. Nombre d'entre vous ont déjà été utilisés ChatGPT. La qualité du prompt, la qualité de la question qui est posée, a une incidence énorme sur le type de réponse rendue à ce stade. Il est possible que dans le futur, en fonction de qui pose la question, du coup, on aura une compréhension du contexte et des mots utilisés, même s'ils ne sont pas précis, en fonction de son profil personnel ou professionnel. Ce n'est pas encore le cas. Donc vraiment, la précision de la qualité de la question est fondamentale.
Donc il faut donner des détails, il faut être bien précis, bien expliquer ce qu'on veut exactement à ChatGPT, par exemple.
Exactement, oui, tout à fait. Le deuxième, c'est donc comprendre la donnée. Ça, c'est essentiel. Et n'importe quelle activité génère une donnée, qu'il est super important de structurer, parce qu'elle a une vraie richesse intrinsèque. C'est vrai pour l'aménagement, c'est vrai pour l'architecture, c'est vrai pour la construction, c'est vrai pour tous ces domaines, et on a clairement énormément de retard sur cette structuration de données.
Donc structuration, c'est quoi? C'est déjà la stocker?
C'est de la stocker. C'est d'arriver à la stocker sous différents formats. Le classique le plus connu, c'est le format tabulaire, type Excel, type SQL. Et c'est vrai que pour l'aménagement, le type de données également très très important, c'est tout ce qui va être données géospatiales, la carto, la superposition de données IGN, de données OpenStreetMap, etc. etc.
Alors ça, c'était le deuxième prérequis. Le troisième?
C'est important, ça me paraît essentiel d'intégrer des professionnels de la donnée dans toutes les structures. Donc il y a différents formats, data scientist, data analyst, data engineer, pour avoir vraiment la capacité, dans un premier temps, sans même parler d'IA, de faire parler la donnée que l'on possède, qui pourra être également enrichie avec toutes les bases de données. On parlait de géoportail tout à l'heure, donc d'enrichir cette donnée et d'avoir la capacité du coup de la visualiser. Donc là, on sera beaucoup plus sur deuxième étape qui sera un peu de la data visualisation, c'est rendre intelligible le sac de données qu'on a et vraiment exploiter cette richesse.
Et alors le dernier prérequis,
c'est la constance. Donc sur les thématiques d'IA, la vraie valeur intrinsèque est délivrée en bout de chaîne. Même si effectivement de se muscler sur la structuration de la donnée, d'utiliser de la data visualisation est importante. Vraiment l'enjeu est du coup la
régularité en fait. Il faut stocker constamment de la donnée pour entraîner l'intelligence artificielle.
Entraîner, purger, entraîner des algorithmes et vraiment de la constance dans le temps sur ces méthodos.
Donc, est-ce que c'est donc une possibilité pour les aménageurs? Ça va prendre un certain temps, mais on peut dire que dans un futur proche, ça reste quand même possible.
L'enjeu, c'est, il me semble, être donc constituer des bases de données suffisamment larges pour entraîner des modèles algorithmiques. Et ça, je me posais la question quand j'avais fait ma thèse professionnelle sur la construction. Je pense qu'il est essentiel qu'il y ait un partage de données des différents acteurs, typiquement qui soient portés par des organismes, des fédérations qui soient transversales et en chapeau. Alors bien sûr, il y aura des sujets de confidentialité de données, mais
pour constituer... Mais ça, c'est un gros sujet aussi. Hein.
Mais il n'y a pas le choix, parce que ouais. Après, ça sera l'œuf et la poule. Il faut constituer des données, des volumétries de données suffisantes pour entraîner des algorithmes, pour démontrer des cas d'usage hyper précis, hyper niche. Pour tel ou tel secteur d'activité comme l'aménagement.
Donc le partage de données, au bout d'un moment, est forcément nécessaire.
Il est essentiel, oui. Mmh.
Alors, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Je crois que vous en avez deux, justement.
J'en ai un précis auquel je pensais. C'est l'un des modèles assez courants, peut-être plus simple à traiter, c'est le prédictif, où on aura plutôt des données type tabulaires qui seront utilisées, et du coup du prédictif de délai de construction, par exemple. Donc cette donnée de délai, les constructeurs longs, les maîtres d'ouvrage longs, les aménageurs longs, les assureurs longs, associés donc avec toutes les caractéristiques, des caractéristiques importantes des projets. On a la capacité de garder des caractéristiques pas trop corrélées au délai de construction, entraîner un algo et donc du coup poser la question de je rentre une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de critères d'opération et j'ai un taux de fiabilité de la réponse très forte et surtout dans un délai très court. On pourra toujours évidemment avec une armée de techniciens, être beaucoup plus précis, mais ça demanderait des études de 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois.
Donc il y aura un gain de temps énorme.
Un gain de temps monstrueux, avec effectivement des taux de précision relativement bons pour le rapporter au temps de réponse.
Alors tout à l'heure, dans la table ronde précédente, on a beaucoup parlé du ZAN, donc le dispositif de zéro artificialisation nette des sols, hein, qui fait partie de la loi climat et résilience. Là aussi, est-ce que l'intelligence artificielle, l'IA, pourrait permettre d'optimiser, par exemple, des plans masse d'opérations d'aménagement en intégrant des critères d'exposition, de circulation, de taille de jardin, voilà.
Alors ça se fait déjà. Il y a déjà des solutions qui proposent sur une base d'IA de l'accompagnement sur le dessin d'opérations. Je pense à la solution Infrared qui est portée par Angelos Kronis.
C'est les Autrichiens, ça.
Oui, c'est les Autrichiens. Exactement, ils sont à Vienne. C'est le pendant du CSTB autrichien, c'est l'équivalent plutôt, et dans son City Intelligence Lab. ils développent une solution où du coup ils ont généré, en l'occurrence ils ont commencé avec Vienne, ils ont généré une banque de données qui permet de connaître par rapport à l'ensoleillement, par rapport à la forme du bâtiment, des réponses sur la réaction des vents de tel ou tel plan. Et les études d'ensoleillement de telle ou telle forme de bâtiment. Et donc, du coup, sur cette base-là, en proposant, en dessinant des formes de bâtiments, ils ont les réponses à leurs questions en termes d'éléments bioclimatiques.
Donc là, pareil, pour savoir comment le bâtiment, au final, va supporter les vents, etc., il faut qu'il y ait de la data qui soit stockée. On ne peut pas partir de zéro.
Absolument. Et là, donc, du coup, dans ce cas de figure-là, ils ont généré eux-mêmes leur banque de données pour entraîner un algorithme et pour être en capacité de donner une réponse immédiate, contrairement à des moteurs de simulation équivalentes qui mettraient beaucoup plus de temps, plusieurs heures à chaque fois pour calculer cette réponse.
Alors, autre question, est-ce que l'intelligence artificielle peut intégrer la data transport pour anticiper les flux et les conséquences d'une nouvelle opération ?
Alors, sur cette question, c'est pas forcément, toujours un petit peu, on met peut-être un peu tout sous le chapeau de l'IA. Là, c'est pas forcément de l'IA, ça peut être uniquement donc de l'analyse de données, la data vise. Donc, en l'occurrence, là, c'est plutôt des données de transport qui existent. Donc, on peut récupérer ces sources-là soit en open data, soit via des Google, des Keolis ou autres qu'on pourra récupérer.
Donc là, il y a des données, de la data disponible en tout cas.
Oui. Ouais. Qui peut être acheté aussi. Il y a aussi des business d'entreprises qui sur une demande particulière, vont générer les données ou travailler au recollement de données pour fournir la donnée qui manquerait à tel ou tel projet.
Donc là, concrètement, il n'y a pas forcément besoin d'IA.
Non, il n'y a pas forcément besoin d'IA. Et donc, du coup, sur la base de ces données de mobilité, on peut imaginer du coup qu'en traduisant les besoins d'un programme et les contraintes d'un aménagement, on puisse générer du coup du master plan ou de l'aménagement. Là, on sera plus sur du design génératif que sur de l'IA. Donc, c'est... il y aura une base pour transcrire en fait finalement toutes les conditions, les équations sous forme de machine. On s'appuie sur des méthodologies d'ingénierie système. Il y a des boîtes comme Sésame qui font ça, qui sont très très solides et c'est assez passionnant comme et donc du coup après c'est sur ces bases-là on a des propositions d'aménagement qui respectent les contraintes qu'on s'est fixées dans le cahier des charges.
Alors en revanche, l'IA pourrait servir par exemple à générer des scénarios. Ce serait le rôle de l'IA.
Oui, tout à fait. Encore une fois, par contre, la condition à cela.
Toujours là d'avoir de la data.
Savoir une banque de données de master plan avec des annotations de qualitatives ou financières par rapport à telle référence. Ou alors, c'est générer, ça peut être une autre approche, ça peut être une approche de générer des centaines de milliers de master plans et d'entraîner et finalement de poser une étiquette qualitative ou de bien, pas bien, intéressant, pas intéressant, cher, pas cher, faisable, pas faisable, pour du coup entraîner un modèle sur la génération de ces scénarios fictifs, mais qui permettrait d'entraîner un modèle et de fournir des réponses.
Alors, vous m'aviez donné un exemple, parce que c'est vrai que l'IA ne réagit pas forcément très vite, n'est pas très agile. Il y a quand même un temps de latence et vous m'aviez donné un exemple. C'est vrai qu'on l'a constaté concrètement avec meilleursagents.com. Alors, s'ils sont là, ils vont être contents qu'on parle d'eux dans l'immobilier. Donc, parce que ça fait plusieurs années que ça existe, hein, c'est ça. Et c'est typiquement de l'IA en fait.
Oui, on en avait parlé. C'est un modèle qui est très intéressant parce que ça fait. Je sais, quasiment 10 ans, peut-être un peu plus, qui sont sur le marché. Et typiquement, c'est un exemple de modèle prédictif où...
Il y a des estimations des biens, des prix des biens.
Il y a une source qui est publique, donc c'est la base de notaire, sur laquelle, du coup, ils ont entraîné des modèles pour prédire des prix.
Donc, ils se basent sur les données des notaires, hein, lors des transactions, oui, et qui se sont passées.
C'est un modèle intéressant, parce que du coup, c'est sur cette base-là, après, quand on a une logique de plateforme, où on accueille énormément de passages, on enrichit cette donnée-là publique, qui est déjà enrichie par des méthodes de croisement de données, de vérification, de purge, de correction. On enrichit avec l'activité et les actions que chaque personne qui passe sur la plateforme pose avec typiquement un j'aime ou j'aime pas, ou correct, pas correct. Mm. On a la capacité du coup d'enrichir et du coup de créer de la donnée propriétaire sur une base de données publiques.
Sauf que, bon, on en a parlé, hein, c'est vrai qu'on connaît actuellement une crise du logement avec des prix de l'immobilier. Enfin, voilà, les taux ont augmenté, donc les prix ont drastiquement baissé dans certaines villes. Il y a eu vraiment il y a une crise, hein, qui touche le secteur. Et là, on constate, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté, que l'intelligence artificielle ne suit pas derrière. Il y a un temps de latence, de réajustement, en fait.
Alors il y a des techniques pour contrer ça, parce que forcément c'est un peu intrinsèque au modèle, c'est qu'on se base sur des données existantes, donc forcément quand il y a un changement de tendance assez fort,
ouais. Là c'est ce qui s'est passé, hein, d'un coup les taux ont augmenté et
La représentation de ces nouvelles valeurs dans un sac de données est assez faible, donc forcément il faut pondérer les nouvelles tendances dans le sac de données de façon à corriger plus rapidement les prédictions qui sortent.
Donc ça, c'est une des limites, on peut dire, de l'intelligence artificielle pour l'instant, en tout cas.
Ça se travaille. Ça demande plus de compétences, mais on peut intégrer ces facteurs-là également.
Alors, les élus sont partie prenante, hein, des opérations d'aménagement. Justement, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait permettre d'aller vers les élus avec une vision des besoins en termes d'équipement public, par exemple ?
Alors, pas à très court terme ou à moyen terme. Je pense que là, typiquement, on parlait de questions précises. C'est typiquement le type de question que si on pose à ChatGPT, on aura des réponses un peu vagues. Ouais. Il faut être beaucoup plus précis. Et en l'occurrence, là, il n'y aura pas besoin de faire appel à de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est surtout des sujets de compréhension de données, de superposition de données pour faire de la data visualisation, typiquement avec des couches de l'analyse des bassins de population, population existante, positionnée. Des projections de population, également du coup les emplacements des différents équipements, de la nature du territoire, comment elle l'est, et donc du coup finalement d'avoir une logique de proposition, de combler les trous, en fonction de cette visualisation, de cette transcription de données, proposer une stratégie en adéquation. Donc là, on n'est pas forcément sur
de l'IA.
Sur de l'IA.
La data visualisation, pour être clair, en fait, c'est des données qu'on a, qu'on analyse, en fait. Et c'est l'homme qui fait ça.
C'est juste une transcription de ces données sous forme de graphes. Donc ça peut être des graphes...
sur Excel, sur des tableaux, enfin ça peut être des tableaux, des graphes.
Des histogrammes, donc les classiques, les camemberts, mais dont l'aménagement sera plutôt du coup de la superposition, de la carto.
Ouais.
De la cartographie avec des représentations du coup de tout ce qu'on faisait, ce qu'on a appris au lycée sur le travail des cartes, où je me suis arrêté. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est, dans le cadre de la donnée aménagement, les données géospatiales sont clés. Donc du coup, il s'agira d'intégrer des compétences qui savent pertinemment utiliser des données géospatiales. Mmh. Et quand on parle du coup d'intégrer des compétences, je sais que moi typiquement, mes premiers pas en data science, je les ai faits dans une école qui s'appelle Iron Hack. Il y a plein d'autres établissements similaires. Il y a le Wagon, il y en a plein d'autres. Et typiquement, quand on fait des cas d'études, donc on se sert d'open data. Et derrière, on cherche aussi à se positionner dans tel ou tel établissement pour participer du coup à faire parler les données propriété des entreprises, pour vraiment donner aux décideurs une vision super éclairée de la réalité des données d'activité et des données qui sont que l'entreprise possède.
Et est-ce qu'il n'y a pas une marge d'erreur justement sur l'analyse des données?
Si, forcément. Et d'ailleurs, c'est essentiel. Effectivement, j'en ai pas parlé. C'est essentiel d'avoir une compétence métier. Donc, ouais. Soit c'est des métiers qui se forment à la data science, soit les data science travaillent de façon très proche, quasiment physiquement. Ça, c'est le mode projet, c'est essentiel pour vraiment avoir une orientation dès qu'on fait des choix. D'ailleurs, le traitement de données, c'est essentiellement des choix de purge, de garder, je convertis, je fusionne, ouais. etc. Donc, c'est d'avoir la compétence métier, la cohérence de ce qu'on fait dans le traitement des données. Donc, vraiment, la compétence métier est essentielle. Et donc, du coup, faut pas vraiment avoir peur par rapport à ces nouvelles technologies. La compétence métier au cœur de ces traitements, c'est vrai, c'est un outil dont il faut se servir et qu'il faut exploiter dès maintenant.
Alors, pour conclure, que peut-on retenir donc de ce lien entre intelligence artificielle et aménagement?
C'est un outil prometteur qui va bouleverser forcément l'aménagement comme tant d'autres secteurs, et c'est un virage qu'il faut prendre dès maintenant, et il faut se former à tous les niveaux, donc à tous les niveaux de la structure hiérarchique.
Eh bien, merci beaucoup Arthur Lapeyrère. On se retrouve juste après la pause du déjeuner avec le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.